7:04.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde, avec vous Olivier Poujade, bonsoir.
Bonsoir Mickaël.
Alors il y a 50 ans, jour pour jour, Olivier, Tsahal déclenchait la guerre des six jours.
Une attaque préventive de l'armée israélienne pour répondre aux manœuvres militaires autour de son territoire et au blocage du port d'Eilat, ordonné par le leader égyptien Nasser. La stratégie prônée par le chef d'état-major de l'époque, le futur premier ministre israélien Yitzhak Rabin, cette stratégie se révèle être d'une grande efficacité et depuis cette date, la Cisjordanie reste sous occupation, la colonisation s'est massivement développée et Jérusalem reste une ville divisée après son annexion par les Israéliens. Bonsoir Étienne Menin.
Bonsoir Olivier.
Correspondant de France Inter à Jérusalem, comment est-ce que la société israélienne célèbre cet anniversaire, Étienne ?
C'est à la fois une affirmation et une revendication. L'affirmation vient de la majorité visible, elle est incarnée par la coalition en place. Elle réaffirme à l'occasion de cet anniversaire la souveraineté israélienne sur Jérusalem. La guerre des six jours constitue pour elle la libération de la ville. La revendication, elle, vient du camp de la paix. Il a manifesté la semaine dernière à Tel Aviv. Il est focalisé sur l'occupation, la colonisation et les dérives qui en découlent. La société israélienne est donc divisée. Le rapport de force est déséquilibré en faveur du camp nationaliste, malgré le discours alarmant des opposants à l'occupation, dont fait partie l'infatigable et très documenté Daniel Sedman, avocat à Jérusalem.
La société israélienne ne se confronte pas avec ce qui est le plus grand péril existentiel qui menace le peuple juif aujourd'hui, le risque d'une occupation perpétuelle. Netanyahou et son gouvernement visent la société civile et les institutions, la presse, la justice, tous ceux qui dans le pays ou à l'étranger mettent un miroir face à la société israélienne pour lui dire « Non, Jérusalem n'est pas unie. Non, ça n'est pas viable. C'est une occupation. Et l'occupation est la menace la plus importante aujourd'hui pour l'avenir d'Israël. »
Et comment Israël envisage aujourd'hui la suite 50 ans après le début de l'occupation, Étienne ?
Bien, la politique du Premier ministre est difficilement lisible. Benjamin Netanyahou est fortement critiqué en Israël pour piloter à vue, avec comme préoccupation première son maintien au pouvoir. Mais au-delà, il y a dans toute une partie du pays une réticence à envisager un retrait de la Cisjordanie, avant tout pour des préoccupations sécuritaires, dit Freddy Etan, ancien ambassadeur, membre d'un institut présidé par un proche de l'actuel Premier ministre.
Il y a évidemment dans l'aspiration légitime des Palestiniens de créer un État, mais pour l'instant, on ne voit pas une situation qui, du jour au lendemain, offrirait aux Palestiniens un État souverain sans les conditions sécuritaires, sans les gages que nous avons connus. Et il est important, pour ne pas gâcher une nouvelle fois, pour ne pas avorter un nouveau plan comme on a vu avec Oslo, mais il s'agit de changer complètement le projet. Je dirais un plan Marshall, dans le sens du plan Marshall que les Américains peuvent investir au Proche-Orient et surtout en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.
Depuis 50 ans, la colonisation a également fortement progressé. Quelle est aujourd'hui l'influence des colons sur le plan politique ?
Leur parti a un nombre limité de députés, mais ils ont trois ministères importants dans la coalition et leur idéologie a fortement progressé dans la société ces trois dernières années. Les nationalistes religieux qui représentent les colons incarnent depuis la guerre de 1967 le nouveau visage du sionisme. Ils pèsent également sur la ligne idéologique du Likoud, le parti de la droite traditionnelle qui s'est transformé ces dix dernières années. Sheva Stern est l'un des premiers colons à être entré au Likoud pour faire un travail de lobby. Il estime aujourd'hui qu'il n'y a plus de débat au sein du parti sur la colonisation.
Non, définitivement non. Il y a un large consensus sur le fait de renforcer les implantations et de les épauler. Pour des raisons nationales et de sécurité, les discussions portent seulement sur le calendrier et sur l'ampleur du développement. Mais il y a un consensus fort sur la nécessité et sur l'importance des implantations. Pour résumer, au sein du Likoud, il y a un accord général sur le fait que ces implantations doivent rester là et qu'elles resteront là.
Et cette évolution imprègne la société. Le dernier sondage du très sérieux Institut pour la démocratie israélienne souligne deux tendances. La moitié des Israéliens pensent que la colonisation n'est pas un obstacle pour la paix. Et les deux tiers des juifs israéliens, c'est-à-dire en dehors de la population arabe, considèrent aujourd'hui qu'il est impropre de parler d'occupation pour le contrôle de la Cisjordanie.
Merci Étienne Menin, correspondant de Radio France à Jérusalem.
Et à 18h41, direction maintenant la Chine, Olivier, pour une autre commémoration.
Dans la nuit du 3 au 4 juin 1989, les militaires chinois ouvrent le feu en direction des manifestants du mouvement pro-démocratie sur la place Tiananmen de Pékin. Une image, Michael, restera comme le symbole de cette confrontation, celle d'un homme debout, seul, face à une colonne de chars. Une scène immortalisée par Jeff Weidener, photojournaliste américain qui se souvient de la violence qui régnait ce jour-là sur la place centrale de Pékin dans une interview accordée au site d'information d'Al Jazeera.
Je n'étais pas sur la place lorsque j'ai pris la photo de l'homme du tank. J'étais au sixième étage de l'hôtel Pékin avec un objectif longue distance. C'est ensuite que je me suis rendu sur le boulevard Chang'an, près d'une colonne de camions qui transportait des soldats. Et quand ils ont ouvert le feu, je me suis mis à courir. Mon téléobjectif avec lequel j'avais pris la photo s'est éclaté sur le sol. Et pendant que je courais, j'imaginais les balles me transpercer le dos et ressortir par mon estomac. J'étais persuadé que j'allais mourir. Les coups de feu partaient dans tous les sens, devant moi, derrière moi. Et puis je suis tombé sur l'ambassade des États-Unis. J'ai vu le drapeau et je me suis dit que je pouvais être sauvé.
Tiananmen, événement majeur de l'histoire contemporaine chinoise, mais 28 ans plus tard, les autorités refusent d'y faire référence. Ce soulèvement n'a jamais existé. Aucun bilan officiel de victimes n'a d'ailleurs été communiqué. Les familles continuent donc de se battre aujourd'hui pour la mémoire de leurs proches. C'est le cas de cette mère dont le fils est mort en 89 à Tiananmen et avec laquelle notre correspondante à Pékin, Dominique André, a pu s'entretenir.
Jiang Songling est une dame de 80 ans. Elle était ingénieure au ministère de l'Espace en 89 quand éclate le mouvement pro-démocratique sur la place Tiananmen. Son fils de 17 ans a été tué par l'Armée populaire de libération qui a tiré sur les jeunes manifestants sur ordre de Deng Xiaoping, l'homme de l'ouverture économique de la Chine.
Il y a trois choses qu'on veut. La première, c'est la vérité. La deuxième, c'est la liste des morts. Que les familles des victimes soient dédommagées et que des excuses soient faites. La troisième, c'est que les responsables soient jugés. En conclusion, vérité, indemnité et responsabilité.
Les larmes puis la colère ont fait place à une volonté que rien n'arrête. Jiang Xiangling n'a peur de rien et surtout pas de la police qui la harcèle depuis 28 ans.
Ils nous surveillent depuis 28 ans. La manière de le faire a changé. Au début, ils étaient discrets, puis ils ne se sont plus cachés. À un moment, c'était très dur, on était traités comme des hors-la-loi. Puis les policiers ont compris pourquoi on lutte contre le gouvernement. Ils ont eu de la compassion. Le gouvernement a changé de tactique. On est surveillé pendant les grands événements, comme l'Assemblée populaire, la fête des morts, le 4 juin, les Jeux olympiques en 2008, ou encore de grands congrès internationaux, comme le Forum des routes de la soie qui vient d'avoir lieu. En ce moment, les membres importants de notre groupe, des maires de Tiananmen, sont suivis dans la rue.
La vieille dame puise sa raison de vivre dans le groupe des maires de Tiananmen qui lutte malgré leur âge.
Ce qui s'est passé il y a 28 ans, c'est inoubliable pour chaque famille et chaque personne qui a été blessée. On a été très tristes, on a trop laissé couler nos larmes. Mais maintenant, on ne pleure plus. La colère est enfouie dans nos cœurs. On veut que ce qui s'est passé le 4 juin soit reconnu. On veut que justice soit faite. Aujourd'hui, nous sommes plus déterminés qu'hier.
Hier, Jiang Xiangling est allé se recueillir sur la tombe de son fils. Les policiers l'ont encadré jusqu'au cimetière. Il n'y a pas de répit pour les parents des manifestants de la place Tiananmen.
Dominique André, notre correspondante à Pékin, sujet réalisé, Michael, avec des sons d'archives dont la diffusion est encore aujourd'hui interdite sur le territoire chinois.
Olivier Poujade, merci beaucoup.